Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le football, c'est quand même. Il y a cette fameuse phrase, là je l'ai pas en tête, mais.
Daniel, je te le dis en pleine tête.
Oh, sur le lob de Clichy. Et ça va au fond.
J'ai reçu un message sur Instagram d'un fan de Servette. Qui me disait si jamais, pense que le gardien est toujours avancé. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. Et bon, après on tente.
Cliché, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Ah, on te régale, Angèle, hein, dans Génération After.
Ouais, de fou.
Les grands souvenirs.
Surtout que la musique, ils l'ont chanté juste quelques mois et puis après.
Et alors quoi, t'as ta chanson aussi. Bon, non, quasiment tout le monde l'a, mais tu l'as aussi ta chanson.
C'est vrai.
Bon, Gaël Clichy était avec nous jusqu'à 22h, bien sûr. 20 sélections de l'équipe de France, 3 titres en première ligue, 2 coupes de la ligue anglaise. On va parler de ta carrière dans un instant. Kevin Diaz est là aussi. Jimmy Brown, Mélina Cherchour, 32-16, ouvert. Madi arrive dans un instant. Il veut parler de Kylian Mbappé, justement, on en parle. Du buteur français, il a marqué contre l'Ukraine, il a marqué contre l'Islande également. Il a dépassé Olivier Giroud, mais c'est pas tant ça qui nous intéresse.
Thierry Henry,
Olivier Giroud, il va le chercher. Voilà, il y a encore une personne à aller chercher, c'est ce qu'il a dit hier après le match. Kylian Mbappé, alors évidemment, c'est un débat qu'on a et on n'est pas tous d'accord autour de la table. Je crois que Kevin, lui, t'es prêt à exonérer des joueurs offensifs très talentueux de
non.
Tâche défensive.
Non, pas du tout.
Mais d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un débat parce qu'on voulait en parler parce que sa mère et son père ont parlé dans l'équipe magazine cette semaine. Ils ont expliqué le profil du jeune Kylian Mbappé. Elle explique notamment Kylian sur le terrain quand il joue et qu'il ne défend pas. Je reconnais aussi très bien mon fils. Depuis l'âge de 4 ans, il ne défend pas. Son père interrogé également sur le sujet. Il défend l'idée que son fils n'a pas forcément à défendre. Il dit, je ne dis pas que Kylian ne doit pas défendre, mais à quoi on juge un joueur? À chaque poste, sa spécialité. On critique un mec qui met 60 buts par saison. Ce que je lui reproche, par contre, c'est que s'il y a un combat pas loin de toi, viens aider. C'est ce que je lui dis. Je peux choquer en disant ça, mais la course défensive qu'a faite l'ailier du PSG avec Kvaratskhelia en finale Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des replis défensifs, on n'est pas dans la même pièce. Voilà, son expression à Wilfried Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses?
Attention, après, il y a une question du journaliste qui dit, est-ce que Kylian Mbappé est dans la même pièce? Et il dit oui.
Non, il dit dans quelle pièce il est. Il est dans la même pièce que moi. C'est ce qu'il
ouais,
dit.
Dans la même
c'est ce qu'il
même
dit. Wilfried Mbappé. Gaël, qu'est-ce que t'en penses toi là-dessus? Est-ce que c'est un débat, hein? Est-ce qu'on peut décharger d'un travail défensif profond et pas uniquement attaquer son vis-à-vis le plus proche un joueur d'un tel talent offensif?
Je pense que déjà, il faut. On est tous d'accord sur le fait que c'est un crack en fait. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est avec si peu de temps, c'est exceptionnel. Après, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai connu Guardiola sur la première année à City. Un de nos meilleurs joueurs était David Silva. Je crois qu'il était à 9 km, 8, 10 km par match. Et il lui a dit, écoute, mon gars, t'es le meilleur joueur qu'on a, mais dans mes équipes, on a besoin de faire un peu plus. Et au final, c'est un joueur sur 5 ans que je n'avais jamais vu passer la barre des 10 km ou quelque chose comme ça. Et à la fin, il faisait des 11 km. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde peut le faire. Et à moins d'être Messi et Ronaldo à 60, 70 buts et des trophées en veux-tu en voilà, je pense qu'il y a du travail à faire. Est-ce que son papa voit Kylian dans ce registre-là? Je sais pas. Ça, c'est ce qui est beau dans le foot.
À cette hauteur-là, en tout cas. Celle de Messi.
Après, c'est ce qui est beau dans le foot, c'est qu'on a tous des opinions. Moi, aujourd'hui, en tant que coach, oui, j'aimerais que mes joueurs puissent faire un minimum. Après, est-ce que tu demandes à un joueur comme Mbappé de faire 13 km par match? Bien sûr que non. Est-ce que tu lui demandes de faire certains replis défensifs pour aider l'équipe? J'ai déjà vu Kylian le faire. Moi, depuis le début de l'année, je sens qu'il est plus léger. Il est plus léger sur les appuis, il est plus léger dans la tête. Je pense que cette première saison, il ne faut pas l'oublier, cette première saison à Madrid. Madrid, c'est le club qui est différent de tous les autres clubs en Europe. Et c'est un poids énorme. On parle avec Anelka, on parle avec Beckham, on parle avec tous ces joueurs-là. Jouer à Madrid, porter le maillot, c'est un poids énorme. Donc cette première saison digérée, comme il a pu la digérer et comme il a pu jouer, je pense qu'en fait il a été là-bas pour marquer des buts et il a marqué des buts. Je pense qu'on verra un visage différent, pas parce qu'il n'a plus rien à prouver, mais parce qu'en fait aujourd'hui je pense qu'il arrive à une maturité. On va pas lui faire faire 13 km par match, mais je pense que comme on peut le voir et les demandes du coach peut-être Alonso qui est justement de la trempe de ses nouveaux entraîneurs, le collectif, la structure et tout le monde doit bosser.
Tu penses qu'il va réussir à le convaincre? Parce que Luis Enrique essaie de le convaincre de travailler plus défensivement, il n'a pas réussi à le faire.
Non, mais c'est Madrid. Et vraiment, pour avoir parlé avec Ancelotti me disait Madrid, c'est un club à part. Il me dit un enfant de 6 ans qui se trouve en Inde, qui se trouve en Angleterre, qui se trouve en France, rêve un jour de porter le maillot du Real Madrid.
Ancelotti, il n'a pas réussi. Hein.
Non, mais en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est un club qui est différent. Il me dit, à Manchester United, si tu es de Manchester, tu rêves de jouer pour Manchester. Mais quelqu'un qui est catalan ne rêve pas de jouer pour United. Et il me dit, Madrid, c'est le seul club qui engage autant de monde. Donc en fait, quand tu vas à Madrid, je ne dis pas qu'on va le convaincre, mais je pense qu'il y aura des choses qu'on ne l'a pas vu faire au PSG. On va le voir faire et réaliser.
Sur le début de saison,
on le voit déjà.
Il y a deux choses à décrypter.
Rapidement, quand on lit les déclarations de Faïzal Amari, la mère de Kylian Mbappé, et de son père Wilfried Mbappé, on imagine qu'il prolonge la pensée du fils également. Il regarde ça presque avec tendresse. Hein.
Il le confirme.
Kylian a toujours été comme ça, c'est ainsi, il n'y a pas de problème.
Non, mais voilà. Il le confirme avec la deuxième question que tu viens de répéter précédemment. Il y a deux choses à décrypter. Déjà, la première des choses, c'est que, on n'en fera peut-être pas des caisses ce soir sur l'interview de Kylian Mbappé, mais j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon l'interview de Mbappé, mais on a aussi vu les autres interviews, notamment de la famille, de la garde rapprochée, et moi j'étais quand même très surpris des propos du papa, parce que j'imaginais que le papa avait une vraie emprise sur le joueur, notamment avec beaucoup d'exigences, en essayant de le remettre en question. Et là, pour le coup, je trouve qu'il prend.
Il lui rend pas service.
Ouais, non, il prend la chose d'un côté différent.
Subjectif, en tout cas, c'est mon fils.
Exactement. Et surtout,
il dit, je suis encore son coach et son père à la fois.
Ouais. Et moi, ce que je n'ai pas aimé dans sa démarche footballistique et dans son avis footballistique, c'est qu'il parle de la. Il dit, on n'est pas dans la même pièce. Ça voudrait dire que donc Xabi Alonso n'est pas dans la même pièce que lui, que Luis Enrique n'est pas dans la même pièce que lui.
Non, il compare avec Barcelona, je pense.
Oui, bien sûr. Mais en fait, quand il parle de la même pièce, moi, comment je le comprends, c'est cette vision du foot là, où en gros, on demande aux attaquants de défendre. Les attaquants sont là pour marquer. Les attaquants sont des attaquants. S'il veut faire semblant, entre guillemets, de faire un ou deux replis défensifs, pourquoi pas, mais de là à défendre, parce que l'image de Kvaratskhelia, c'est l'image qui a fait tout le tour du monde, et il y avait beaucoup de visions qui s'opposaient en disant, est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions avec Kvaratskhelia ou avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Et moi, j'estime que je suis plus du côté de, c'est avec un Kvaratskhelia qui se met au service du collectif, qui se met minable pour le collectif, parce que quand ça va être dur, quand le football contre Arsenal, contre Dortmund, contre le Barça, contre l'Inter Milan, quand tu vas aller chercher des hauteurs très très hautes, et ben l'effort avec ballon ne suffit plus sur ces hauteurs-là. Et Kvaratskhelia a énormément apporté du côté du Paris Saint-Germain. Sur Kylian Mbappé, qui met 60 buts. Et nous, ça nous dérange pas. 60 buts, c'est exceptionnel. Et il y a très très peu de joueurs qui peuvent se targuer de faire ces choses-là. Maintenant, le gros problème, c'est quand tu mets les buts, quand c'est compliqué, est-ce que tu mets les buts? Et surtout, est-ce que ton leadership ne déteint pas sur le reste de l'équipe? Et moi, ce qui me dérange avec Kylian Mbappé, encore une fois, si on doit le comparer à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo, c'est que ces deux mecs-là mettaient des buts, mais mettaient des buts contre Huelva, contre Alaves, contre le Deportivo La Corogne, mais aussi en finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions.
Mbappé, il en a mis 4 en finale de Coupe du Monde. Hein.
Je te parle de club, là. On parle de football de club. Parce que je l'ai déjà dit, mais en équipe de France, c'est un monstre et il peut rentrer dans la légende cette année avec cette troisième peut-être finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais pour en revenir sur le football de club, c'est-à-dire que contre l'Atlético de Madrid, c'est compliqué, c'est difficile, pas de but. Contre Arsenal, aller-retour, c'est difficile, c'est compliqué, le collectif est en difficulté, pas de but. C'est ça aujourd'hui.
Il n'est pas le seul responsable de ça.
Il a quand même marqué contre le Barça.
Non, je parle des grosses échéances de Ligue des Champions. Le 4-0 contre le Paris Saint-Germain, notamment, pas de but. Et quand il n'y a pas de but pour Kylian Mbappé, tu vas essayer de gratter sur son match, sur son apport, sur l'apport dans l'attitude, dans le leadership et dans l'effort sans le ballon. Et quand je parle d'effort sans le ballon, c'est pas forcément derrière le but. C'est même dans les appels, dans tout ce qu'il va réaliser. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, la question, elle se pose là-dessus. Surtout que on a vu un Vinicius avec et sans Mbappé. C'est-à-dire que l'année dernière, on a vu un Vinicius qui ne défendait beaucoup moins que l'année d'avant sans qu'il y ait Mbappé.
C'est que en fait c'est paradoxal ce que tu dis, parce que en fait s'il était aussi décisif, tu l'exonérerais. Exactement. Parce que Messi, il déconnectait complètement, il défendait pas du tout,
mais sauf que les deux
encore moins que Mbappé, Ronaldo, les deux cases
ne sont pas remplies en
pour l'instant. Il a fait sa première saison à Madrid,
mais bien évidemment
je pense surtout qu'il faut arrêter de parler de Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo, c'est des joueurs qui sont pas de la même planète que tous les autres joueurs qu'on a vus sur les 20, 30 dernières années peut-être. Donc, il y a toujours des anomalies. Et les anomalies, ce sont ces deux gars-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs comparables. C'est incomparable. Et ça, qu'on veuille ou non, je pense qu'il faut que tout le monde l'entende. Ensuite,
Walid, mais lui, il se compare à ces deux-là.
c'est son droit, mais c'est le nôtre de ne pas le comparer à ces joueurs-là pour l'instant, en tout cas. Ensuite, t'es un peu paradoxal parce que tu viens de me tirer une tirade que tu as complètement de façon différente pour Ryan Cherki, qui est aussi un joueur qui joue beaucoup avec le ballon, certes à moins de stats, mais aussi à moins d'attente, moins de plus jeune, etc. Mais
c'est deux joueurs très différents.
Oui, avec ça des reste deux joueurs offensifs.
Différents.
Ça reste deux joueurs offensifs.
J'ai pas la même exigence envers Ryan Cherki qu'avec Kylian Mbappé. Oui, lui-même le dit dans son interview. Non,
c'est théorique qui t'explique.
Oui, ce que je te parle de théorie parce que Ryan Cherki ne met pas 60.
J'ai jamais nié les problèmes défensifs.
Non, mais lui, je te dis juste,
restons sur Mbappé.
Je te dis juste que pour moi, j'allais dire, il y a deux visions du foot qui s'opposent. Il y a la vision du foot en mode que ce soit la famille, et je ne leur reproche pas, ou les fans du joueur, hein, le mode fanboy du joueur, soit c'est mon gars, soit c'est mon frère, soit c'est mon fils,
soit c'est mon joueur.
Ouais, c'est donc ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, c'est incritiquable parce qu'il met 60 buts, etc. Donc ça, ça vaut pour Mbappé, ça valait pour une certaine forme de Neymar que j'aimais moins sur la fin de sa carrière, ça vaut pour Cherki, ça vaut pour d'autres. D'accord? Et puis après, il y a l'autre vision du foot. Et malheureusement, pour la première partie, c'est la deuxième vision du foot qui gagne aujourd'hui en club.
Après, ça peut changer.
En tout cas, pour l'instant, sur les 10-15 dernières années, c'est un Real avec Ronaldo, mais un Real quand même très collectif, avec un gros milieu de terrain, avec des gros défenseurs, on se rappelle quasiment du 11 type. C'est un Barça, je n'en parle même pas. C'est un Liverpool. Le Liverpool de Jürgen Klopp qui gagne la Première Ligue, qui fait deux finales de Ligue des Champions, qui en gagne aussi, c'est trois attaquants qui se mettent minables et pourtant c'est des monstres aussi en termes de productivité. Mais Salah, Firmino,
Mané,
ça se crève. Attends, je finis. Ça se crève pour le collectif et c'est ces équipes-là qui ont gagné.
Oui, mais est-ce que le problème, tu parlais du Real de Ronaldo, est-ce que le problème c'est qu'il est peut-être pas aussi bien entouré que Ronaldo l'était au Real?
Possiblement, mais possiblement, bien sûr.
Ça l'exonérerait peut-être de ses courses défensives.
Possiblement, mais aujourd'hui, le football, on en parlait avec Gaël avant l'émission, le football, c'est un contexte. Où arrives-tu? Avec qui arrives-tu? Et qui t'entraîne?
Enfin, excusez-moi les gars, quand tu parles du Real Madrid, ils jouent pas avec Jean-Pierre.
Ils jouent pas avec Toni Kroos, Modric.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport, si tu regardes l'effectif du Real Madrid, je pense que t'es très bien pourvu en qualité à toutes les lignes. Ils viennent de recruter Alexander-Arnold, Carrera.
Là, aujourd'hui, maintenant.
Si t'es honnête, tu n'es pas avec le milieu de terrain Casimiro, Modric.
Mais Prime. c'est le même Mbappé, Kevin, qui disait que l'équipe du Paris Saint-Germain n'était pas assez forte, que le recrutement n'était pas assez bon,
que Paris Saint-Germain n'était pas aussi forte que celle-ci. Attention, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le PSG n'aurait pas pu gagner la Ligue des Champions avec Mbappé.
Ils étaient très proches de la gagner.
Ils étaient très proches de la gagner.
Ils étaient un face à face contre Bayern Munich de gagner la Ligue des Champions.
Et puis même, ils font demi-finale l'année d'avant avec sept entraîneurs. Mais malheureusement, pour lui et pour ce camp-là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ça aurait pu l'être. Ça, il faut le dire quand même. Il faut être honnête.
Oui, mais c'est difficile. Il est facile de dire avec Varane, tu gagnes avec Mbappé.
Et on a dit aussi que quand tu arrives au Real, donc en l'occurrence pour lui, il arrive sur la fin de Toni Kroos, meilleur passeur peut-être de l'histoire sur les 20 dernières années, qui aurait pu lui en mettre 2-3 galettes, même contre le Real, même contre le Barça, même contre Arsenal, même contre n'importe quelle autre équipe. Donc en il y a aussi un timing qui lui sied pas vraiment.
Je vais écouter.
Stop.
Non, je vais écouter. Les gars, on a un invité, c'est Gaël Clichy, s'il vous plaît.
Ok, mais juste dernière phrase avant de. Il faut dire aussi qu'il aurait pu rejoindre le Real 3 ans avant, mais c'est lui qui a décidé de rester au PSG.
On est trop dur avec Mbappé, les médias en général.
Bah en fait, quand c'est capitaine de l'équipe de France et ce qu'il nous a donné, on est obligé d'être intransigeant. On est obligé parce qu'aujourd'hui, je rebondis sur ce que Kevin a dit, les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui jouent en équipe et donc il n'y a pas un joueur qui faillit à travail sans ballon. Donc en fait, on ne dit pas qu'il doit faire 13 kilomètres, on dit juste, moi en tout cas, ce que je vois depuis le début de cette saison, c'est qu'il a eu 3 semaines de vacances et qu'il a eu une période de 3-4 semaines où il s'est entraîné 2 fois par jour. Et qu'on voit un Kylian un peu plus léger. On voit un Kylian qui se rapproche de ce qu'on a vu quand il était un peu plus jeune. Et je suis sûr qu'avec, dans le timing de capitaine équipe de France, une Coupe du Monde à aller chercher, peut-être une remise en question, une maturité en fait qui grandit aussi. Je suis sûr qu'on va avoir un Kylian qui va faire beaucoup plus d'efforts et qui va être incroyable.
Gaël, tu préférais pas le Mbappé qu'on a découvert à l'époque à Monaco, de ses premières saisons au PSG, plus spontané, certainement plus véloce aussi qu'aujourd'hui.
Moi, il y a quelque chose dont, en tout cas, je ne peux pas vraiment parler de ça. Je peux juste en parler parce que j'ai côtoyé ces joueurs-là.
Oui.
C'est très dur de porter une nation et de porter un club. Et aujourd'hui, je pense que Kylian est là. Quand on prend Messi, en fait, sur 20 ans, je compare pas Messi et Ronaldo, mais quand on prend Messi qui pendant 20 ans à bout de bras tient Barcelone et tient l'Argentine. Quand on voit Ronaldo, ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui avec le Portugal, je pense que Kylian, c'est la même chose. Et en fait, tant qu'on n'a pas été dans ces conditions-là, c'est très difficile de parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.
De toute façon, il en est conscient.
Il le dit très bien dans l'interview.
Il a dit dans l'interview. Et même son papa, il dit quelque chose de juste. Une saison ratée de Kylian Mbappé est une saison exceptionnelle pour un autre joueur. C'est aujourd'hui, c'est sa réalité, c'est les standards qu'il a mis.
Kevin a dit, effectivement, il y a 3 ans, s'il part au Real de Madrid il y a 3 ans, bien sûr, on est en train de supposer et on assume certaines choses qui ne seront jamais. Mais je pense que s'il part il y a 3 ans, il est l'attaquant peut-être légendaire de cette équipe. Ça, c'est une certitude.
Ah, mais ça, le timing. Ce sera sûrement aujourd'hui.
Il est dans un processus au Real Madrid.
Mais moi, juste ce qui me dérange par rapport à l'interview, après, il faut savoir que l'interview a été écrite pendant la Ligue des Nations.
En juin dernier.
Après la Ligue des Nations, parce qu'il dit à son papa notamment qu'ils avaient perdu contre l'Espagne 2-3 jours avant. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, ce que je lis, c'est pas du tout ce que je vois sur le terrain en ce moment. C'est-à-dire que pour le coup, le leadership, l'attitude au Real Madrid et avec l'équipe de France, je trouve qu'elle est en nette amélioration là-dessus. Et j'ai même vu sa communication, je sais plus, parce que j'ai vu qu'il a fait la tournée des popotes sur les derniers jours. Je crois que c'est sur M6 ou je sais plus où. Il dit aujourd'hui, il faut se mettre minable. Pour aller chercher ces titres-là, cette saison, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, il faut se mettre minable. Donc même dans le discours et dans ses actes, je vois un Mbappé nouveau. Et j'ai envie de croire à ce Mbappé nouveau. Et là, on repart encore une fois sur...
Mais c'est pas lui qui parle, c'est son père. Et dans une optique de défendre son fils sur le moment, tu vois, c'est aussi ça. Faut l'interpréter comme ça, faut pas se
tourner. Bon allez, je vais accueillir Madi au 32-16. Bonsoir Madi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de ta patience, Madi. Tu voulais parler de Kylian Mbappé, justement. Je crois que tu as du mal à comprendre le traitement qui est réservé à Mbappé. Tu parles de quel traitement? Sur quel sujet, surtout?
Tout ce qu'on vient d'entendre, c'est l'illustration de ce que je ne comprends pas. Parce que tout ce qui est dit, je ne le comprends pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous parlez, vous dites une critique négative, et derrière, vous prenez toujours le soin de dire « Oui, mais attention, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. » Mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer les phrases par « C'est un joueur exceptionnel ?» mettre un point et puis s'arrêter là, en fait.
On s'ennuierait un peu. En fait. C'est pas une question d'ennui, Jimmy. C'est juste on est hyper exigeant avec ce joueur qui est l'étendard du foot français, parce qu'il a un talent exceptionnel. Et il pourrait être encore plus et peut-être rejoindre un jour, je sais pas, ça c'est un autre débat, la galaxie des plus grands attaquants de l'histoire du foot.
Pour moi, il y est déjà.
Il y est déjà.
Mais pourquoi il n'y est pas? Pourquoi il n'y est pas? Parce que je vais reprendre. En fait, vous avez dit énormément de choses. On l'entend très souvent. Mais une chose qui me marque, c'est. Attention, je ne compare pas. Chaque fois, vous avez commencé les phrases par attention, je ne compare pas Mbappé avec Messi et Ronaldo. Mais pour quelle raison?
Parce qu'il est incomparable.
Attendez. Juste, avec qui tu compares Mbappé aujourd'hui? Si tu ne le compares pas avec Messi et Ronaldo, avec qui tu compares
Mbappé? Non, mais tu peux prendre la question à l'inverse, Mbappé, c'est qui tu compares avec Messi et Ronaldo?
Moi, je peux te répondre très facilement.
Madi, tu as posé la question. Kevin, tu
réponds. Avec qui tu le compares? Bah, tu le compares avec Mo Salah, tu le compares avec Lewandowski, tu le compares avec Haaland, tu le compares avec plein de joueurs, en fait. Pourquoi
allez, Madi.
Jamais de la vie. Ah ouais, champion du monde.
Ok.
Laisse-le parler.
Kevin,
laisse-le parler.
Non, mais sinon, faites-le.
Vas-y, Madi.
J'ai pas la passe de parole.
Vas-y.
Je le prends et après, vous me répondrez. Mais pourquoi vous pouvez, moi je vais vous répondre pourquoi vous ne pouvez pas le comparer ni à Lewandowski, ni à Mo Salah, et ni à Haaland. Simplement son palmarès. Son palmarès, le nombre de buts qu'il marque par saison. Le type est arrivé pour la première année, il a joué sur une jambe, avec un demi-cerveau, je pense, près du burn-out. Il a fini Pichichi. Le mec est terminé premier meilleur buteur du championnat d'Espagne. Moi, franchement, ce soir, j'ai envie de réhabiliter ce type parce que, en fait, je pense qu'on est un pays de clochards du football. On ne sait pas reconnaître les joueurs. Ouais, je pense vraiment.
C'est excessif,
je pense qu'on ne sait pas reconnaître. On ne sait pas reconnaître nos grands joueurs. Partout, ce type serait vénéré dans tous les grands championnats et tous les grands pays, toutes les grandes nations du football. Ce type serait vénéré. En fait,
il n'est pas vénéré en France. Il n'a pas été vénéré pendant un long moment.
Là, il a raison. Il n'est pas vénéré. Il a été plus jeune en 2018.
T'es un peu dur. Il n'est pas que critiqué, Mbappé. Il a énormément de défenseurs.
Il y a eu des grandes périodes de Kylian Mbappé où dire un mot de travers sur Kylian Mbappé n'était pas possible dans les médias. Derrière, ça s'est inversé par rapport à sa communication, par rapport à sa gestion, notamment au Paris Saint-Germain, de ses transferts. Je pars au Real Madrid, je pars pas au Real Madrid. Il y a eu des questionnements là-dessus. Il y a eu des performances, qu'on le veuille ou non, collectives. Parce que le football, c'est pas du tennis, m'a dit. C'est-à-dire que, à un moment donné, si, mais c'est, on parle de 60 buts, c'est plutôt 40.
42 ou 44.
C'est plutôt 40 que 60 buts. Mais c'est très, très bien ce que fait individuellement Kylian Mbappé.
Mais en termes de palmarès, c'est pas comparable à Messi et Ronaldo. Non, même en termes de palmarès.
Et aujourd'hui, je parle. Parce que, pourquoi ne pas comparer à Lionel Messi et à Ronaldo? Parce que déjà, moi, je l'ai déjà dit, il y a à dissocier le football de club, le football de sélection. Moi, je l'ai déjà répété. Ce qu'il est en train de faire en Coupe du Monde, c'est hors du commun. Et qu'il va jouer pour être le meilleur joueur de la compétition en 2026 à la Coupe du Monde. Par contre, aujourd'hui, à 26 ans, par rapport au trophée gagné en club, par rapport à l'aura, par rapport au gros match de Ligue des Champions, tu ne peux pas comparer Kylian Mbappé à Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo. Attends, qui sont dans une autre galaxie.
Mais Gaël, tu disais pourtant il est tout en haut déjà.
Oui, pour moi, il est tout en haut, parce qu'en fait, faire ce qu'il fait en Coupe du Monde et donner la deuxième Coupe du Monde à son pays, c'est exceptionnel. Ce qu'il fait, moi, je l'ai découvert à City contre Monaco, c'était incroyable. Encore une fois, je suis d'accord un petit peu avec la personne qui est là, c'est qu'en fait, on analyse Kylian sur une saison qui est apparemment mauvaise, mais il termine bien
meilleur buteur
du championnat. Il est payé pour ça. Donc en fait, oui, bien sûr, on n'est pas là en train de dire qu'on ne l'admire pas et qu'on n'aime pas ce qu'il fait. On dit juste qu'en fait, ces joueurs-là, on est tellement critiques parce qu'en fait, c'est lui qui va nous faire aller chercher une Coupe du Monde, et que quelque part dans le football d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement un peu plus d'effort. Est-ce qu'il doit faire comme l'ailier gauche du PSG? Non. Est-ce qu'il doit faire un minimum comme il fait depuis le début de cette année? Oui. Et en fait, on n'a pas dit qu'il n'était pas dans le top des attaquants. On dit juste qu'en fait, comme on parlait d'Olysée, comme on parlait de Thierry Henry, comme on parle de Franck Ribéry, il y a toujours des petites choses à améliorer. Et en fait, on parle juste d'une chose à améliorer.
Très bien. Mais Gaël, si tu me permettes, en fait, si vraiment tu veux, si on dit Mbappé, il n'est pas de la planète d'un Messi.
Oui.
Mais alors, du coup, c'est pas par le prisme de l'effort sur le terrain qu'on va le comparer, en fait.
Du coup, c'est pas
ça qu'il faut dire. Mais oui, mais.
Bah, Messi, il fait gagner 5 Ligues des Champions.
Bon, après, on peut essayer d'arrêter de comparer les joueurs, les légendes, les joueurs.
C'est lui qui veut
comparer. Messi nous a donné, je crois, 91 buts sur une année civile. En fait, c'est des choses qu'on a. En fait, Messi et Ronaldo, en fait, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais en fait, Messi et Ronaldo ont changé, en fait, la façon dont on vote pour le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or était un trophée par rapport au trophée gagné en club et par rapport à ce qu'on a réalisé sur une année entière. Aujourd'hui, quand tu avais un joueur qui marque 91 buts dans une année, même s'il n'a pas gagné la Copa del Rey, c'est très compliqué d'aller contre le fait que ça a été le meilleur joueur. Et c'est juste ça, en fait, qu'on veut dire. Mais bien sûr que Kylian fait partie des très bons et des très, 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 très bons. Aujourd'hui, il n'y a même pas de question là-dessus.
Et puis surtout, même sur la sévérité, moi je suis désolé, on sort d'un rassemblement où on a dit que du bien sur Kylian Mbappé, alors que moi, par exemple, son match techniquement sur le dernier contre l'Islande, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais par contre l'attitude, le leadership, tout ce qu'il fait est positif, il est disponible.
Sur
le début de saison avec le Real Madrid, on a dit que du bien sur l'association avec Xabi Alonso. Donc là on parle d'une interview, on parle de ce qui s'est passé l'année dernière, on parle du rapport Real Madrid avec et sans lui, du PSG avec et sans lui. Voilà, le football c'est pas uniquement que des statistiques. On essaye d'élever le débat un peu plus. Peut-être qu'on suranalyse, mais on l'assume. Et surtout, on dit pas que des mauvaises choses sur Kylian Mbappé. Quand c'est très très bien, c'est très très bien.
C'est Walid, moi ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire, et après je vous laisse la parole. Moi souvent j'ai discuté avec les Anglais parce que je leur dis, pour moi Patrick Vieira, les duels avec Roy Keane, pour moi ils ont changé la première ligue en France. Et ils me disent, ouais, mais ça veut dire quoi, que c'est le meilleur milieu? Je dis non, c'est pas ça, c'est juste que t'as des joueurs qui arrivent à un moment donné et te procure des sensations qui te donnent envie de dire certaines choses. Et aujourd'hui, c'est juste ça, en fait. Quand on parle de Kylian, on sent, en fait, qu'il a beaucoup plus à donner. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas? Je ne sais pas. Encore une fois, on lui demande pas de faire 15 kilomètres par match, mais on se dit que dans le football d'aujourd'hui, et ce qu'on a pu voir avec City, avec Liverpool, avec le PSG l'année dernière, on se dit qu'en fait, s'il peut ajouter ce qu'il fait d'ailleurs, ce qu'il a fait hier et ce qu'il fait depuis le début de saison, et je pense sincèrement que c'est ce qu'on va voir cette année, on va avoir un monstre sur les terrains.
Et surtout, quand des coachs mettent en place
place un système de jeu pour le décharger de ses responsabilités défensives, comme Deschamps l'a fait contre l'Autriche sur le match de l'Euro, enfin sur le dernier Euro, ou même un Luis Enrique qui te dit je peux pas le faire jouer à gauche, je vais le faire jouer au poste de numéro 9 pour qu'on soit meilleur défensivement et qu'il arrive sur une demi-finale contre Dortmund aller-retour et qui n'impacte pas statistiquement, on peut nous aussi arriver en disant bon, le rapport bénéfice-risque, si tu mets un triplé, il y a aucun souci, tu défends pas. Par contre, si tu te fais éliminer et tu passes à côté, eh ben on va le dire sur RMC.
C'est fou, Walid, hein, comme tu montes en tension quand tu parles.
Mais non, mais parce qu'on nous traite de clochards. Non, mais c'est un pays de clochards. On est des fous.
Bon, Madi, merci d'être venu. T'as animé le débat ce soir autour de Kylian Mbappé. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. T'es ici chez toi sur RMC. Dans un instant, on va parler de ta carrière avec les chiffres. T'as commencé à citer certains coéquipiers ou adversaires. On va se régaler. On a plein de questions à te poser. Bien sûr, surtout sur ta période de Première Ligue, Arsenal et à City. Reste avec nous, Génération After, avec Jimmy Brown, Walid Jarchour, Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Kevin Diaz, Jimmy Brown, vous voulez des chercheurs RMC, Génération After, 21h31, l'After, hein, prendra le relais bien sûr comme tous les soirs de 22h à minuit. Merci à tous d'être avec nous sur RMC, sur YouTube également, sur Afterfoot TV, sur le WhatsApp d'RMC. Vous envoyez vos messages bien sûr. Alors, Gaël Clichy toujours avec nous jusqu'à 22h. Gaël, 21 saisons professionnelles, hein, à AS Cannes où tu as été formé. Je t'ai vu passer à Cannes, c'était mes premiers matchs en tant que journaliste en national.
Il est là.
T'es avec moi, Gaël ?
Oui, je suis là.
L'AS Cannes, magnifique. Marcel Salerno, ton président, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Ouais, exact.
Quelques beaux joueurs aussi. En national, et 8 saisons à Arsenal, 6 à City, 3 en Turquie avec Istanbul Başakşehir et 3 au Servette de Genève.
Bon, quand tu l'as vu la première fois, tu pensais qu'il allait faire cette carrière-là ?
Non. Je savais pas. Moi, j'avais 20, 21 ans, je crois. Ouais.
T'as pas senti le truc. T'avais pas la vision.
Bah, je voyais pas. Je connaissais pas encore assez bien le foot. J'avais pas le regard aiguisé que j'ai aujourd'hui, évidemment, quoi.
Il y en a deux qui l'ont vu, hein. Arsène Wenger et Damien Comoli.
Moi, j'aurais pu faire partie de ces trois-là. C'était qui ton coach à Cannes?
En pro.
C'est pas Marseglia, hein.
J'en ai eu sur la première. Bah, mon année pro, on en a eu 6.
D'accord.
Ah ouais, c'était
Robert Bouygues.
C'est pas l'herbe le truc, c'est quoi ça?
Robert Bouygues.
Alors, on va dérouler ta carrière, bien sûr, avec des questions très simples. Tu vas nous répondre et on pourra développer avec tes réponses. Quel est le club où tu as préféré jouer? Arsenal ou City, en fait. Hein.
Ouais, c'est dur, en fait. Je peux pas juste vous donner une réponse parce que Arsenal, en fait, j'arrive dans un vestiaire. Pour moi, c'était comme une bibliothèque, en fait. J'avais juste à regarder autour de moi. Et puis, en fait, je regarde ce que Walid fait. J'adore ce qu'il fait. Ce qu'il aime pas, je le mets de côté. Enfin, j'ai pas besoin de vous citer les noms.
Bah, si, vas-y, ça fait toujours plaisir,
ouais,
en fait.
C'était les Vieira, les Bergkamp, les Canou, les.
Ouais, c'est
les
Wilson, avec
Bergkamp. Tu peux nous raconter rapidement comment ça se fait, en fait? Parce que tu viens de Cannes, on le disait,
ouais. Ouais, je suis à Cannes. Et en fait, les gens dans le foot n'aiment pas parler de chance. Et moi, si je vous raconte ma carrière, vous allez voir tous les moments, en fait, où j'ai eu le coup du destin. Une poussette, c'est incroyable.
Déjà, raconte-nous comment tu joues, tu finis défenseur. Parce qu'au départ,
Je remonte loin.
Non, mais très très vite, en 30 secondes.
En 30 secondes. Ben,
c'est important dans ta carrière.
Je signe à Cannes, je suis numéro 10 en centre de préformation à Castelmaurou. Et j'arrive mon premier entraînement à Cannes. Et en fait, le coach, Jean-Jacques Asso, a un papier. Il dit, OK, les attaquants à droite, les défenseurs à gauche. Donc moi, je vais numéro 10, fier, je vais à droite. Et il regarde sa liste et il manque un joueur avec les défenseurs. Et il me dit, il dit, Clichy, toi, t'es là. Et je dis, mais vous avez dit, il a dit non, à partir de maintenant, t'es là. Donc, je passe arrière-gauche à ce moment-là et je suis remplaçant.
C'est fou.
Que tu l'imagines ou pas, mais je suis remplaçant parce qu'il y a un joueur qui s'appelait Grégory qui est titulaire. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait la préparation et une semaine avant le premier match de championnat, le défenseur central se casse la mâchoire. On joue sur un petit synthétique avec une fosse et il tombe sur le petit muret, il se fracasse la mâchoire et du coup il me met défenseur central gauche avec un joueur qui s'appelait Damien Berger. Damien Berger, c'était un grand d'Avignon, tout ce qui était en l'air il prenait et moi en fait je récupérais tous les ballons et puis je sortais build-up from the, tu vois, construction de derrière. Donc c'est comme ça que ma carrière commence à Cannes en moins de 15. Et après, quand on passe à Cannes avec les pros, c'est la même chose. À une semaine du début du championnat, le titulaire Orlando Silvestri, qui prend un rouge sur le dernier match de championnat de la saison d'avant, donc il est suspendu pendant 3 matchs. Le numéro 2 est Stéphane Floras, qui devient numéro 1, et moi je suis là en tant que doublure, quoi. se casse la mâchoire, se fracture de la malle, fracture de la malléole.
C'est pas qu'il les poussait tous les mecs ou quoi, à chaque fois, c'est quoi?
J'avais
un contrat ou quoi?
J'avais des assos, ouais. Il se fracture la malléole. Du coup, il y a personne pour jouer à Cannes. Je joue homme du match. Et puis, à partir de là, ben, ça va plus, quoi.
Donc, c'est pas que de la chance, quelque part.
Mais je peux t'en donner d'autres, hein.
T'as de la chance, mais faut faire ce match.
Le talent pour le faire.
Non, mais moi, je te donne un exemple. Quand je suis recruté à Arsenal, Damien Comoli, et de Nice. Et donc, en fait, il rentre tous les week-ends sur Nice pour voir ses enfants, c'est sa fille, parce que je crois, je me trompe pas, il est en instance de divorce.
D'accord.
Donc, en fait, il entend parler d'un jeune de 16 ans qui joue en national. T'es sur Nice, c'est à Cannes, il n'y a rien à faire, on y va. Peut-être que s'ils étaient de Lille, ils voient jamais Gaël Clichy, tu vois. En fait, je pousse loin, mais la vérité, c'est que les gens n'ont pas parlé de chance, mais il y a vraiment ce facteur chance qui existe, quoi.
Ce qui est dingue, c'est quelques mois plus tard, il y a Arsène Wenger qui débarque chez tes parents à Toulouse.
À Cannes, exactement.
À Cannes.
Mon père, il m'appelle après un match, il me dit, ouais, chérie, on monte avec ta mère, on vient voir Arsène Wenger, vous nous voir sur Cannes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis, en fait? Rigole pas avec ces trucs-là. Moi, je suis à des années-lumière de penser à Arsenal, tu vois. On était en contact avec des clubs en France, Ligue 2, Ligue 1, avec une, tu vois, une progression, continue. Et puis, il me dit ça, et puis, tac, on se retrouve devant Arsène Wenger. Et puis, au final, toute la planification que mon père et ma mère avaient pu mettre en place pour moi sur les années qui arrivent, tu mets tout à la poubelle, et puis tu sautes dans l'avion, et puis direction Londres, quoi.
Bon, quel est le coach qui t'a le plus marqué? Bon, t'as connu Wenger.
Il a pas répondu à Arsenal ou City.
Mais il veut pas répondre, t'as compris? C'est différent.
Arsenal, si on est honnête.
T'as un Arsenal... titre à Arsenal, deux titres de première ligue.
Arsenal, je suis, tu vois, c'est une année fantastique et invincible. Et
t'es parti des invincibles.
À jamais.
Mais
Arsenal,
t'as pas le même rôle qu'à City quand tu gagnes.
Exactement, à City, je suis titulaire. Et c'est totalement différent. Donc, si je parle sur mon feeling à moi perso, City, c'est beaucoup plus grand parce que j'apporte vraiment la pierre à l'édifice. Arsenal, même quand je joue 15 matchs, mais même si je suis bidon, en fait, les joueurs, ils sont tellement forts qu'on va gagner. Ça, c'était une année, tu donnes le ballon à Henry, à Bergkamp, à Canou, il va rien se passer, quoi. Tu vois, donc
t'as donné le ballon à Bergkamp.
Tu l'as gardé, ton maillot Bordeaux, là, celui-là?
Ouais, je les ai tous gardés.
Le O2, exactement. Il était grand
sur les photos. À l'époque, il y avait que du L, tu vois, L ou XL. Donc, t'imagines, moi, j'étais tout frêle, tout petit. Non, c'était des années exceptionnelles, mais ouais, City, c'est quand même, c'est particulier pour moi.
C'est quoi l'équipe la plus forte dans laquelle t'as joué? Je parle d'une saison, hein. Où t'as senti que ton collectif, c'était plus fort, là.
Ouais, c'est les Invincibles.
Les Invincibles,
il y avait rien à faire. Tu regardais dans le tunnel à Highbury, vous avez connu Highbury, le petit tunnel, tu voyais la peur dans le regard des joueurs quand ils regardaient Thierry, c'était genre qu'est-ce qu'on peut faire,
un empereur romain.
Ouais, t'avais un gars derrière, il y avait un ours, Sol Campbell, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi, en fait, tu vois, tu peux rien faire. Patrick au milieu, il était seul, tu vois. Aujourd'hui, on parle de double pivot, est-ce qu'on doit en rajouter un troisième pour rajouter de la densité? Mais non, t'avais juste Vieira et la densité, elle était là, tu vois. C'était incroyable. Robert Pires sur le côté, Ljungberg, Bergkamp, you know. Non, c'est juste, tu peux aller de chaque position et tu te dis, en fait, mais en fait, j'ai presque envie de te dire, j'aurais été vraiment un gros loser si j'avais pas fait carrière en atterrissant dans ce vestiaire-là. Tu vois ce que je veux dire?
Ça t'a beaucoup servi.
Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ça c'est important, parce qu'en fait, tu arrives dans un jeune joueur de 16 ans, tu arrives dans un vestiaire, tu vas t'identifier à ce vestiaire. Et donc, en fait, si tu as des gens pas sérieux, des gens qui arrivent en retard, des gens qui ont du poids, des gens qui se donnent pas à fond dans leur métier, tu apprends ce métier-là.
Bien sûr.
Moi, je regarde à gauche, à droite, je vois Vieira, on joue le samedi, je vois le lundi, et le gars, il se met minable. Maintenant, Thierry, il prenait des ballons 15 minutes par entraînement, à la fin d'entraînement, et il travaillait son
fameux
plat du pied. Ouais, on pense que c'est un given, mais c'est pas ça. Il a travaillé. Donc, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, OK, j'ai pas le talent, certes. Par contre, s'il donne 120%, moi, je dois donner 130%. Et tu vas réussir, parce qu'au final, on le voit aujourd'hui, hein, peu importe ce que tu fais. Si tu as cette envie et cette volonté de faire plus que l'autre,
Le paradoxe, pardon, de cette équipe-là qui est énorme et qui nous a tous marqués. Moi, j'ai souvenir gamin d'Arsenal, c'est qu'au final, en Ligue des Champions, comment t'expliques qu'il y a eu la finale, évidemment, en 2006 contre le Barça, et le scénario de match fait que voilà, ça aurait pu se passer autrement pour vous. Mais hormis ça, c'est une période de domination assez longue quand même. Vous n'avez pas réussi sur le plan européen.
Ouais, moi quand je parle avec Pep. Quand j'ai parlé avec lui, il me disait, tu sais, la Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup de réussite. Et je reviens encore avec cette carte chance. Il me dit, en fait, c'est très simple. Tu débutes une finale, tu te réveilles un matin, t'as un joueur qui a mal dormi parce que il est anxieux. T'as deux joueurs qui ont mal dormi ou un parce qu'il est malade. Et puis t'as juste un joueur qui va faire un match en dedans parce que ça arrive tout le temps. Et ben, en fait, tu commences pas un match à 11, tu commences à un match à
8, à 7. C'est ce qui s'est passé en
2006. Il y a le rouge.
Il y a l'expulsion.
Il y a le rouge. Rouge et il n'y a surtout pas la VAR à cette époque-là. Je pense que c'est la VAR, c'est différent, quoi.
Quel est le joueur qui t'a le plus marqué, toi? Qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Le coéquipier. Coéquipier, c'est important. Parce que là, t'as fait les Jungberg, les Bergkamp, les Vieira.
Ouais, c'est Thierry.
T'as fait Van Persie.
Thierry, en fait, c'était l'attaquant de 2025, il y a 20 ans. Mmh. Oui, c'est un attaquant, les gens qui le connaissent, c'est le gars, il mange du foot. Tu lui parles de ce qui se passe en 1860, l'équipe de France, il va te le sortir. Et puis, c'est un mec, je vous donne une anecdote, mais par exemple, il aimait travailler les finitions et donc il prend à droite un arrière-droit qui s'appelle Justin Hoyt, un anglais, et moi à gauche. Et donc, en fait, il voulait juste qu'on prenne 10 ballons et qu'on lui mette le lacet sur son pied gauche pour l'arrière-droit et moi sur son pied droit. Donc, le premier, Justin, il prend le ballon, puis banane, le ballon, il part derrière lui, il se replace. Moi, c'est pareil, je fais...
T'es un peu sous pression que tu devais faire ça. Ouais.
Juste un petit peu. Tac, centre, pied gauche, banane, ok. Un deuxième, ok. Il arrête, il va à la position de Justin, il prend pied droit, pam, lacé, ballon parfait tendu. Tac, il jogue, tu vois, tout le long de la surface, il vient à ma place, pied gauche, pam, parfait. Et donc, nous, on se regarde et bon, on a un petit peu l'appréhension, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on se dit, bon, on est prêt, et puis il rentre au vestiaire. Tu vois, donc en fait, ça te montre un peu l'état d'esprit, l'état d'esprit du mec, mais aussi du club, parce qu'au final, c'était pas seulement lui. Tu vois, il y avait des mecs comme Gilberto Silva dont on parle très rarement. Mais il était impressionnant, ouais, exactement. Donc, non, si j'avais pas été pro, ça aurait été une vraie faute professionnelle.
Non, mais les gens, enfin, la jeune génération connaît pas bien Thierry Henry, malheureusement. Ils ont vu des images, etc. Mais nous, voilà, nous, c'était tout, le style,
la célébration, présence,
tu vois, tu vois, il avait du Cantona en plus, tu vois, quand la personnalité comme ça, il parlait pas beaucoup en dehors des médias, mais tu vois, sur le terrain.
Mais pour le coup, tu vois,
méchant.
On peut revenir sur l'auditeur qui a appelé. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est quand même des champions pour, c'est pas qu'on rabaisse nos champions, mais en tout cas, on leur donne pas le chemin de la gloire aussi facilement que dans les autres pays. Et ça, c'est une vérité. Il avait un point très valide. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que, oui, il y a des gens qui passent devant lui en équipe de France, mais pour moi, il y a vraiment deux joueurs. Il y a Zidane, Henri et Thierry. Et quelque part, il y a aussi un peu Anelka. Quoi. Pour moi, c'est les trois joueurs qui sont toujours présents dans la tête des jeunes.
Pourquoi tu ajoutes Anelka ? Attends, ça m'intéresse.
Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu prends n'importe quel jeune qui n'ont pas vu ces joueurs jouer. Ils connaissent ces trois personnes-là. Pour moi, c'est vraiment des joueurs, c'est des talents générationnels. Et en fait, c'est des gens... comme Kylian, parce que je pense que Kylian a cet impact-là, il fait partie des personnalités dont on se rappellera dans 20 ans. Moi, si je ne suis pas coach dans 20 ans, il y a très peu de chances que les jeunes me connaissent. Ces mecs-là, c'est des mecs qui sont dans le temps et gravés à jamais. Quoi.
Nico, il parlait des individualités. Tu as évoqué Thierry Henry, mais il ne faut pas quand même oublier que tu as joué avec des très très grands joueurs dans des très très grandes équipes. Il y en a d'autres hormis Thierry Henry, parce que c'est le choix un peu logique. Mais...
Non, ben après, tu parles de Bergkamp. Bergkamp, c'était tu vois, pareil, il est un peu plus âgé, donc forcément les jeunes ne le connaissaient pas, mais c'était un tueur le mec. Quoi. Il n'y avait jamais rien qui... tu vois, quand tu ranges ta chambre, le téléphone, il est comme ça. Ben, lui, c'est pareil, mais tu lui envoies une saucisse, ben, tac, contrôle, et puis il te renvoie le ballon sans problème. Donc, Denis, c'était incroyable.
Sur l'aspect technique, par rapport au numéro 9 d'aujourd'hui, tu sens une différence de ce que tu as connu à l'époque, les Agüero, les Van Persie, les Bergkamp, les Thierry Henry. Tu as côtoyé des mecs, des attaquants exceptionnels.
C'est top 20 de l'histoire. Hein,
Kun, ce qui était déroutant avec lui, c'était qu'en fait, forcément, il y a du travail, mais il était... Ce qui était déroutant, c'est qu'en fait, il s'entraînait, il mettait son chapeau, il court pas. Je me rappelle un but qu'il marque, il est remplaçant contre United à United et il s'échauffe pas. On est tous les trois, il y a l'escouade avec moi et on regarde, on dit, mais s'il rentre, il est mort, quoi. Il fait rien, le mec, ça fait 20 minutes, il fait rien. Premier ballon qu'il touche, tu dois t'en rappeler, Walid, il prend le ballon sur la gauche, il rentre intérieur, fin de frappe, le joueur, il se couche par terre, fin de frappe, il se couche par terre, dans la surface, fin de frappe, il se couche à terre et il met une frappe pleine lucarne. Et tu dis, en fait, ces mecs-là, talent pur, mais tu vois, c'est agressif, tu vois, quand ils ont le ballon, tout ce qu'ils font, c'est rapide. Parce qu'en fait, tu as des joueurs qui sont très bons techniquement, qui vont te faire des gestes techniques, arrêter. Mais c'est des mecs un peu comme R9, tu vois, qui font tout très bien et très vite. Et ça, c'est très rare, en fait.
Pause. C'est intéressant. Dans un instant. Une génération, en plus, on a grandi avec ces joueurs.
Il y a un sachet de popcorn qui arrive, là?
On enchaîne, il reste encore un quart d'heure. On fait une pause rapidement et on a encore des questions à te poser. Gaël Clichy dans Génération After avec Kevin, Jimmy et Walid. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Jimmy Brown. Il nous reste 6 minutes et toujours avec Gaël Clichy, notre invité ce soir. Gaël, on perd pas de temps. Quel est l'adversaire, l'individu qui t'a posé le plus de problèmes dans ta carrière?
Alors encore,
le mec, c'est un traumatisme.
Alors pour notre auditeur, c'est pas Messi, Ronaldo, même si c'était dur, c'était Sean Wright Phillips.
Ah ouais, oui.
Incroyable.
Et quand lui, il était à City,
la vitesse. Quand il était à City et à Chelsea, ben moi, ma qualité, c'était toujours l'anticipation, la vivacité. Et lui, c'était la même chose. Il était plus petit que moi, centre de gravité très bas. Et puis, tu sais, c'est ce type de joueur, en fait. Il a pas de circuit préférentiel, mais il a beaucoup les contres, à son avantage. Et du coup, c'était horrible parce qu'il partait dans le dos. Il y avait, ça rebondissait partout. Il allait vite. Donc lui, ça a été toujours, toujours très compliqué.
Je le prenais à FIFA, moi.
Ah, mais c'est la vraie finition. S'il avait eu la finition à la hauteur de ses capacités à éliminer, etc., ça aurait été.
À la fin, il a flopé, ouais.
Gaël, le joueur le plus feignant qui a fait la plus grande carrière.
Oh. Oh non, j'utilise
ça n'existe pas, ça.
Non, j'utilise ma carte Joker, là.
Ça n'existe pas.
Non, parce qu'en fait.
Un mec qui n'est pas à l'entraînement à Nantes, mais qui a fait une grande carrière. Déjà, quand même. Ah oui, j'ai connu Mario, toi.
Déjà, pour faire une carrière en National et en Ligue 2, c'est que déjà, t'as quelque chose, et donc, en fait, je veux pas. Mais ouais, c'est le bon nom, peut-être. Ouais, Telly. Mais c'est même pas la feignantise, c'est juste de.
Il a pas exploité son talent.
De la bêtise,
quoi.
Ouais, c'est de la bêtise.
Ah ouais.
De la bêtise. Ouais, Balotelli, peut-être.
La bêtise hors terrain, discipline, quoi, c'est ça, quoi.
Après, il se perdait un peu. Tu regardes le background et tu peux comprendre.
Oui, et l'histoire, la vie.
Mais c'est avec les qualités qu'il avait, tu te dis, c'est dommage, quoi. C'est dommage, ouais.
Le coach. C'est quoi le coach?
On l'a fait le coach ou pas? Non, on l'a pas fait.
Le coach.
Le meilleur coach.
T'as connu Wenger, Mancini, Pellegrini, Guardiola. Ah ouais,
c'est le coach, ça peut être que Arsène, parce que c'est lui qui me révèle. Non, en fait, c'est lui qui me révèle, et ça, il faut toujours être respectueux.
C'est le mentor.
De ça.
C'est le mentor.
Voilà. Mais c'est vrai qu'en 10 mois, vraiment, parce qu'une saison, c'est même pas 12 mois, c'est 10 mois, Pep, en fait, il a pris mes connaissances, le monde football que j'avais en tête. Il a juste retourné.
Mais t'as réappris à jouer au foot, t'as dit, c'est ça, quoi.
Clairement.
C'est un peu le même discours que Thierry Henry.
Ouais.
C'est-à-dire que, mais il faut, c'est ce que je disais la semaine dernière. Bon, on parlait de Kylian Mbappé, de sa nouvelle carrière qui va débuter peut-être avec Xavi Alonso. Mais il faut être capable aussi, comme joueur, de vider ton logiciel et d'être prêt à l'apprentissage, tu vois.
Ouais.
Alors que t'es un joueur d'expérience qui a gagné des titres.
Bonne question. T'as réussi à appliquer tout de suite ce qu'il te demandait, Guardiola?
Tout de suite, parce que moi, je me suis jamais considéré comme un joueur talentueux. Par contre, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui devait apprendre. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je vais pas te dire que je vais choisir un joueur qui a envie d'apprendre plus qu'un joueur qui a de la qualité, parce que la qualité te fait gagner des matchs, on est d'accord. Mais finalement, un joueur qui a cette volonté et cette endurance dans l'effort d'apprentissage, tu peux faire ce que tu veux de ce joueur, et ce joueur peut devenir.
T'avais pas la pression de dingue, parce que quand il arrive, on parle de la grande lessiveuse où il veut virer tout le monde, etc. Parce que vous avez une saison un peu plus compliquée avec Pellegrini, et finalement il le fait l'année d'après. Est-ce que toi, pendant cette saison-là, tu te dis purée, je vais être dans les mecs qui vont sauter?
Non, parce que moi je sais qu'il y avait un rapport avec Pep, puisque j'avais joué avec lui à Arsenal, et je sais qu'il appréciait mon profil.
D'accord.
Ça veut pas dire qu'il m'a gardé pour le coup, parce que je fais partie de ce grand ménage. Mais ce que je veux dire, c'est que ces types de coach, c'est pour ça qu'en fait on parle sur Kylian ou ses top joueurs, ces types de coachs, ils sont dans la perfection. Et la perfection, c'est toutes les phases du jeu, possession, hors possession.
C'est un vrai malade.
Et lui, c'est les détails, c'est juste incroyable, en fait. Tu vois, il laisse rien au hasard, et c'est ce qui est beau. Moi, c'est quand je t'ai dit que j'ai voulu devenir entraîneur à ses côtés, bien entendu, j'ai envie de gagner la Ligue des Champions, j'ai envie de tout faire, mais c'est parce qu'en fait, la manière dont il se comporte au quotidien, c'est incroyable.
Et l'équipe la plus forte que tu as affrontée?
C'est son Barcelone quand il rafle tout, quoi. Je me rappelle, on est à l'Emirates, 25 minutes de jeu, et Abou Diaby, le ballon sort en touche. Abou, il me regarde, je vois, il est mort. Et il me regarde, il me dit, Gaël, on va faire comment? Je dis, on va courir, mec. Et avec ça, tu pouvais rien faire contre ces mecs-là, tu vois. C'était avec un Messi extraordinaire, avec un milieu qui dominait tout.
Parce qu'en plus, vous les jouiez tout le temps en huitième de finale.
Tout le temps,
le baby Barça contre
C'est ça. Et c'était pour moi la meilleure équipe contre qui j'ai joué. Ouais, trop fort.
Moi, Gaël, je voulais t'entendre quand même sur. Moi, je suivais beaucoup avec Arsenal, avec City, etc. J'ai jamais compris. Alors évidemment, t'as pas eu de chance quand tu vois aujourd'hui la concurrence au poste de latéral. Je pense que tu serais titulaire tous les jours en équipe de France. Est-ce que c'est une frustration pour toi de pas avoir fait plus en équipe de France?
Non,
t'as
non,
fait 2010 Coupe du Monde Euro 2012.
Il y avait Vera Abidal devant toi.
C'est exactement ça, en fait. Et des fois, moi j'aime pas me cacher derrière les choses. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains moments où j'étais peut-être plus performant qu'eux, mais en fait, dans la période où j'étais à Arsenal, eux, ils sont peut-être au même niveau que moi, pour certaines personnes meilleures. J'ai pas de mal à dire qu'ils étaient peut-être meilleurs, mais c'est surtout qu'en fait, ils gagnaient des trophées, ils jouaient dans les deux meilleures équipes qu'il y avait en Europe. Et puis, c'est deux joueurs exceptionnels. Donc, en fait, du regret. Tu ne peux qu'avoir du regret quand tu fais des choses qui vont à l'encontre de ton talent et de ce que tu pourrais éventuellement donner. Moi, j'ai toujours tout fait pour être le meilleur. Après, il y a des rencontres avec des coachs. Je pense qu'en sélection, il y a eu un moment où j'ai senti que je pouvais pousser. Ça s'est pas fait parce que ça s'est pas fait.
Avec qui?
Pas de regret. Ben je pense que sur la fin, quand je gagne ma place, par exemple contre le championnat d'Europe en Ukraine,
à l'Euro, ouais.
Ouais, je pense. En fait, voilà, je décide de quitter Arsenal, qui est mon club un peu de cœur. Donc c'est une vraie décision. Et puis j'ai de la chance parce qu'avec Samir, on va et on part. Et la première année, on gagne le titre. Je gagne ma place au championnat d'Europe. Et donc, dans ma tête, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui vient de se créer. Il y a une bascule qui vient d'être opérée. Et puis, au final, en fait, rapidement, je me rends compte que le nouveau sélectionneur va repartir sur quelque chose de plus classique. Et c'est comme ça. Je peux pas, on parle pas de joueurs lambda. On parle de deux joueurs
qui ont été. Barça.
Voilà. Pour moi, je pense qu'Ashley Cole était le meilleur sur la décennie où on est dans ce duel. Mais je pense que Eric et Patrick, c'est un, et puis après, ils sont deux et deux bis, quoi.
Gaël, c'est terminé. Merci, on s'est régalé.
Merci, Gaël.
Merci, Gaël. Évidemment, je finis par ce message.
On continue au kebab à côté, bien évidemment.
Ce message sur WhatsApp de Martin qui dit: quel plaisir d'écouter Gaël. Il est monté dans mon taxi il y a 15 ans. C'est déjà une science du football. Donc, tu peux saluer Martin.
Ouais, vas-y, envoie-moi un DM, et puis on discute.
Il y a eu un petit pourboire ou pas au taxi ou pas? Généreux, un peu Gaël.
Ça va être dur, là. Faut que Martin réagisse très vite sur WhatsApp. Merci encore une fois, Gaël. Merci Jimmy, Gaël, Kevin, Walid. Rendez-vous tous demain soir à 20h.
On peut pas le ramener un peu plus souvent, hein, Gaël?
Bien sûr que si. Ouais, bah, évidemment, c'est un régal.
D'accord, ce serait pas mal.
Dans un instant. On a parlé de la carrière, mais il y a la nouvelle carrière, les gars.
Ah, bah oui, c'est ça.
On en a parlé un peu, mais on pourra en parler plus encore. L'after dans un instant, qui arrive jusqu'à minuit comme tous les soirs. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.